franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Renan Mahé et Maxime Ingrand aujourd'hui à la technique et assisté de Aude Émilie Judaïque de Albert Houck du Maine-et-Loire. C'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Émission qui débute par une petite humeur. Alors cessons de nous lamenter au sujet de la météo quasi-polaire et qui mine le moral de tout le monde. Arrêtons car il y a une explication. Bah oui, il fait froid tout simplement parce que c'est bientôt Noël. Plus exactement, c'est déjà Noël, mais c'est juste pour Monsanto. Je vous explique. Le géant de l'agrochimie vient de récolter, il y a quelques jours, dans ses chaussons, un superbe cadeau offert par le président Obama et le Congrès états-unien. Un amendement aussi discret qu'un pesticide logé dans la chaîne alimentaire s'est glissé dans une récente loi budgétaire portant sur l'agriculture. Et que dit cet amendement ? Oh, bah débroutille. Tout recours devant la justice de la plus grande démocratie du monde visant la commercialisation de plantes génétiquement modifiées est désormais impossible, même si leur homologation a été annulée par un tribunal. Alors mieux, dans ce cas, le ministère de l'Agriculture états-unien se doit d'accorder une dérogation temporaire à l'exploitant agricole qui aurait pu ainsi être lésé par l'invalidation de son autorisation de culture d'OGM. Ah bah oui, on va quand même pas perdre nos récoltes et les profits qui vont avec. Alors tout le monde sait que l'environnement ne sont que des contraintes, l'environnement ce sont que des contraintes dérisoires face aux dividendes des actionnaires. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien la multinationale vient aussi de gagner devant la Cour suprême, donc la plus haute juridiction états-unienne, son procès face à un modeste fermier de 75 ans. David versus Goliath, once again. Mais David n'a plus la force de manier sa fronde. Ce fermier ayant constaté que son soja standard avait hérité de la même résistance au glyphosate, qui est la molécule de l'herbicide vedette de la firme, que le soja transgénique, bah il s'est dit, il avait pensé profiter de cette relative aubaine et il se dit, bah tant qu'à avoir une culture contaminée, autant en réutiliser les graines l'année prochaine, comme ça je ferai des économies. Alors il va sans dire que c'était pas exactement la bonne idée mon gars, mais non. S'il y a des multinationales qui dépensent autant d'énergie à breveter le vivant, ce n'est tout de même pas pour voir un amateur ne pas apporter chaque année son obol à nos amis philanthropes. Le vieux David est maintenant à genoux, Goliath attend avec un œil gourmand que lui soient versés les 85 000 $ qu'il réclamait pour le préjudice subi, tel Shylock dans Le Marchand de Venise, exigeant sa livre de chair. Bon, il est vrai que Monsanto n'est qu'une modeste entreprise, ne représentant que 93% des semences de soja, 88% du coton, 86% du maïs vendu aux États-Unis. On espère au moins que dans sa grande bonté, eh bien Goliath offrira à David un abonnement à Roundup Magazine. Et que va-t-on faire? Ça va être quoi le thème général? Eh bien, on va vous envoyer dans l'air merveilleux. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va fêter donc la nature. Comme ça, par exemple. Ou bien, par exemple, après le coucou. Vous n'avez pas entendu chanter? Ah bah oui, c'est le rossignol. Ah oui, c'est le rossignol. Il n'est pas sorti encore? Si, dans certains coins, il est déjà sorti quand même. Donc c'est la fête de la nature tout ce week-end un petit peu partout en France avec notre partenaire, entre autres, Terre Sauvage, qui vit la nature donc à sa façon depuis très longtemps en cherchant les petites bêtes. Donc ce sera avec François Letourneux. Mais, il y aura aussi donc un reportage. Je vais vous emmener au Pays des Aigles avec Christian Couloumi. On va découvrir donc ces aigles non loin du parc national des Écrins. Nous irons dans le Dévoluy. Et auparavant, ça va être l'actualité avec vous, Frédéric Danhé, parce que vous intervenez dans cette émission régulièrement, vous êtes ingénieur écologue, vous êtes journaliste et écrivain environnement. Et cette semaine, il y a eu un cri d'alarme des entrepreneurs français du secteur de l'énergie qui pressent les États de leur donner une visibilité et une vision. Décryptage, Frédéric Danhé.
Ben, les industriels n'avaient pas tort. Effectivement, il y a une invisibilité pour eux, une incertitude totale sur le prix de l'énergie. On ne sait pas, à tous les sens du terme, de quel bout on va chauffer dans les années qui viennent. Et ça, on n'est pas habitué. Et donc, ils ont poussé les gouvernants européens à réagir, à se réunir, à se concerter pour essayer de donner de la visibilité. Et ben, la visibilité, ils n'en ont pas eu. Pourquoi ? Parce que les gouvernants ont décidé, en bons gouvernants actuels, de ne rien décider, c'est-à-dire de tout confier au marché. Alors qu'on sait très bien à quel point le marché était efficient pour évidemment baisser le prix de l'énergie qui n'a jamais cessé d'augmenter depuis que le marché, en particulier de l'électricité, a été libéralisé. On sait très bien que cette libéralisation a asséché les comptes d'EDF qui, plutôt que d'investir sur l'entretien des centrales nucléaires, étaient incités à acheter des centrales à droite à gauche, ce qui a plombé ses comptes. Et puis le marché du carbone, on sait à quel point
c'est efficace.
Et incitatif.
C'était efficace pour récupérer la TVA de manière frauduleuse.
Ça a rapporté des milliards aux fraudeurs, ça nous a coûté 1,5 milliard sans doute à l'État français, mais bon, peu importe, il n'y a toujours pas de procès d'ailleurs. Donc, lors de cette réunion, on a beaucoup parlé de mix énergétique, on a beaucoup parlé de production locale. Ça a été assez peu dit par les commentateurs. Production locale,
c'est important.
On consomme ce qu'on produit, ça a été dit. On a ouvert la porte en grand au gaz de schiste. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, le gaz de schiste est ouvert. Alors, c'est dit publiquement sous le terme de production, je le traduis quasiment mot à mot de l'anglais, de production par état onshore, production régionale onshore, c'est-à-dire on utilise les ressources qui se trouvent sur place. Ça, c'est la demande des Polonais, notamment, qui voulaient un quitus de la Commission européenne, de l'Union européenne, pardon, pour exploiter ce gaz de schiste.
Ils se sont d'ailleurs rendus compte qu'il y en avait moins que prévu.
Et de toute façon, on sait que, quand bien même il y aurait effectivement une explosion de la production, c'est une production qui ne peut aller qu'en baissant très rapidement. Le rendement de l'exploitation baisse très vite. Donc, on confie tout au marché, on ouvre la porte au gaz de schiste. Néanmoins, on promeut une production locale et tout de même, ce qui est assez peu dit, on met en avant une rénovation du réseau électrique.
Avec les interconnexions
qui sont indispensables pour qu'il y ait un réel marché de l'énergie et qui sont totalement indispensables pour donner une rentabilité énergétique aux énergies renouvelables. Si vous voulez que les champs d'éoliennes, que les champs de panneaux solaires pallient en partie la faiblesse de leur rendement, il faut qu'ils soient interconnectés entre eux. Et si vous voulez qu'il y ait une production locale d'énergie, il faut que tous les micro-sites de production soient reliés entre eux et puissent envoyer leurs électrons sur le réseau. Donc voilà, c'est un bilan assez mitigé. En tout cas, ce qui est assez inquiétant, c'est que tout ça, tous les investissements futurs en termes de moyens de production sont confiés au marché.
Alors ce que l'on regarde aussi d'un point de vue, cette fois-ci totalement électricité, c'est que d'ici 2020, il faudrait fermer 22 réacteurs en France, en sachant que nos réacteurs vont passer de 30 ans tous jusqu'à 40 ans.
En tenant compte des 40 ans, il y aura de toute façon 22 réacteurs de 900 MW chacun qui vont devoir fermer. 2020, c'est dans 7 ans. 22 réacteurs de 900 MW, ça fait 20 gigawatts en moins. On va les remplacer par quoi? Ce qui est terrifiant dans le problème actuel, c'est que personne n'a décidé de quoi que ce soit. On est un pays qui, en 12 ans, entre 1979 et 1991, a fabriqué 45 réacteurs nucléaires. 80% de notre capacité nucléaire a été érigée en 12 ans, aux frais du contribuable et aux frais de nos factures, si j'ose dire. Et on s'est endormi sur nos lauriers et aujourd'hui, on est incapable de décider quoi que ce soit. Donc, la nucléocratie, si j'ose dire, n'a même pas été dans sa logique qui aurait dû la pousser à continuer régulièrement à fabriquer des réacteurs. Il n'y a même pas de projet de centrale nucléaire. On a fait un EPR et parce qu'on a perdu du savoir-faire, l'EPR, on n'arrive pas à le faire. Il n'y a même pas de décision pour remplacer concrètement ces 20 gigawatts par d'autres sources de production d'énergie. On ne décide de rien. En même temps, les normes s'ajoutent aux normes. Pour mettre simplement une éolienne dans un champ, il faut 7 ans.
C'est ça.
Donc on va se retrouver dans 7 ans avec un creux en termes de production d'électricité et personne n'a imaginé comment on va combler ce creux. Et d'ailleurs personne ne met véritablement en place une politique de réduction de la consommation, de réduction de cet effet rebond dont on a souvent parlé dans cette émission qui fait qu'on perd 30 à 40% de nos économies en dépensant ailleurs. Donc c'est le plus inquiétant, c'est ça. C'est même pas de sortir du nucléaire finalement, parce que le nucléaire on y sort tout doucement parce qu'on n'a rien décidé. Je donne juste un ordre de grandeur, 20 gigawatts. On ne va pas remplacer 20 gigawatts de réacteurs nucléaires par 20 gigawatts d'éoliennes. Pourquoi? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est 80% du temps qui fonctionne une éolienne, c'est 20 à 30% quand on est offshore. Du panneau photovoltaïque, c'est 14, 15, 16%. Donc si vous voulez remplacer 20 gigawatts de nucléaire, c'est 20 gigawatts d'éoliennes plus 20 gigawatts d'éoliennes offshore plus 20 gigawatts de panneaux photovoltaïques. Et puis pour faire le lien, un peu de biomasse, un peu plus d'hydroélectricité. Donc c'est des investissements gigantesques, mais qu'il faudrait décider maintenant. Avec une vraie politique de réduction de la consommation.
Est-ce qu'on n'est pas sur de l'idéologie pure qui permet de ne pas prendre de décision?
Ah ben on est sur de l'idéologie, le débat il est idéologique. Qu'on pense ce qu'on veut du nucléaire, la question je pense qu'elle n'est même plus là. Le nucléaire on est en train d'en sortir parce qu'on n'a rien décidé. Mais si
on ne sait pas de quel bois on va chauffer. On est dans une incertitude totale sur ce qui va produire notre énergie dans le futur.
Ce qui veut dire qu'on va acheter peut-être de l'électricité ailleurs, et puis que le gaz et le charbon ont de toute façon l'avenir.
Le charbon, vous savez, l'Allemagne, ce pays béni des dieux, qui est merveilleux, c'est un pays vert, 52% de son électricité est produite par du charbon. Le charbon inonde le marché parce que le charbon n'est pas cher. Le charbon n'est pas cher parce qu'aux États-Unis, ils ne savent plus quoi en faire, vu que le gaz de schiste est encore moins cher. Donc l'énergie du futur, alors l'énergie de transition, ce sera sans doute le gaz, mais ça pourrait être le charbon. Et si on ne décide de rien, demain, on aura une électricité au charbon. Et donc, dans ce monde où on est certain de rien, où on a envie de rien décider, est-ce qu'il est bon de rejeter par principe, je ne vais peut-être pas me faire des amis le nucléaire, parce que on n'a pas envie qu'il y ait du nucléaire, parce que c'est immoral.
Non, on a le droit de tout dire dans l'émission.
Voilà, donc tout ça pour dire que c'est assez consternant de voir qu'on est confronté à un problème majeur et que personne ne décide de rien.
Bon, vous aurez des choses très positives à dire sur la fête de la nature et sur la biodiversité tout à l'heure, Frédéric, hein, je pense.
J'ai plein de choses à dire de bien sur François Le Tourneux et sur la fête de la nature.
Mais ça tombe bien, il est là. Allez, hop, musique. Fête de la nature, donc, ce week-end, un peu partout en France. Nous y revenons avec François Le Tourneux et Frédéric Danhé. Juste après, qui ? Oh, bah, c'est M. On aime sur France Inter, oui.
Quand je la regarde, ça se voit tout de suite. C'est un océan pacifique. Mais dis où est la
choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. C'était donc en direct sur France Inter. M, océan, on adore les commémorations en France, on adore les fêtes, ça nous fait beaucoup de bien. Fête de la nature, ça devrait être tous les jours normalement. Bon, c'est pas toujours le cas. Quand on regarde le numéro de Terre Sauvage, on sait que là, c'est vraiment tous les mois aussi. Avec d'ailleurs un reportage sur les coccinelles, parce qu'on s'intéresse aux petites bêtes dans cette fête de la nature. Alors, je vais me tourner vers François Letourneux, qui est l'ancien président de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature en France, et président de cette fête de la nature. Alors François Letourneux, quelles sont les ambitions de cette fête ?
Eh bien, il y a beaucoup de gens qui, à juste titre, et vous venez de le faire, Denis, dans votre introduction, qui sont des lanceurs d'alerte. C'est très important pour sensibiliser les gens, mais ça a un petit défaut, c'est que ça décourage les gens d'agir, paradoxalement. Et pour agir, il faut avoir envie d'agir. Et pour avoir envie d'agir, il faut savoir de quoi on parle. Or, les Français sont devenus des urbains qui vivent à la ville ou à la campagne et ils n'ont plus de contact avec la nature. Et ils n'y vont plus. Ils descendent de leur voiture ou de leur transport en commun, ils se collent devant leurs écrans, comme tout le monde. Et donc, on s'est dit, il faut leur montrer que la nature, c'est pas seulement des espèces qui disparaissent, la biodiversité menacée, c'est aussi du bonheur, des belles choses, du plaisir, fût-ce un peu mouillé, comme ces jours-ci, les premières manifestations ont été humides, mais c'est aussi ce qu'on mange, c'est aussi ce dont on s'habille, c'est aussi le plaisir de partager avec des vrais professionnels la découverte, cette année, des petites bêtes.
Et je suis un peu impendant avec la fête du patrimoine, c'est-à-dire que ça c'est une chose qui est complètement acquise parce qu'on aime la pierre en France, on aime l'histoire, donc il y a une fête du patrimoine et tout le monde va visiter les différents patrimoines de France, châteaux, églises, etc. Pour la nature, ça ne va pas forcément de soi, donc c'est aussi pour ça que vous êtes dit, la nature étant un patrimoine, allons-y et donnons des possibilités aux gens de découvrir ça de plus près.
La fête du patrimoine, elle a évolué de façon passionnante. On ouvre de plus en plus de patrimoines exceptionnels et qui sont généralement fermés. Des très grands châteaux, des très grands ministères, des très grandes églises, etc. Nous, on a à peu près exactement l'ambition inverse. C'est-à-dire que nous, on veut montrer que la nature, elle est tout près de chez soi. Au départ, dans la fête du patrimoine, il y avait beaucoup de lavoirs, beaucoup de chapelles, beaucoup de petits patrimoines locaux. Il y en a un petit peu moins maintenant parce que le grand patrimoine est très attirant. Nous, on se dit que les gens qui vont découvrir la nature en Vanoise ou qui vont découvrir la nature dans les autres parcs nationaux, ils le font, ils en ont envie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que près de chez soi, en ville, en banlieue, il y a une nature incroyablement riche, à condition qu'on se donne la peine de la regarder.
Alors, question, je veux dire, à la fois toute simple et qui est immense, comment ça fonctionne la nature ? Parce que quand on la laisse faire, on voit que ça marche.
C'est vrai que le changement climatique, il a ce défaut que si on arrête complètement d'envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va quand même monter pendant 50 ans à cause de ce qu'il y a dans l'atmosphère.
Au minimum.
En revanche, la nature, dès qu'on lui fout la paix, elle se répare. Alors, ça va pas toujours de soi, mais elle commence à se réparer au moins à partir du moment précis où on arrête de lui faire du mal.
C'est-à-dire qu'il y a une résilience.
Il y a une résilience qui est une résilience immédiate. Évidemment, lorsqu'une espèce a disparu, il n'y a plus aucun espoir de la voir revenir. Mais en revanche, lorsque c'est le fonctionnement de la nature qui était inquiétant et qu'on remet ce fonctionnement en marche, en état, la nature reprend très vite ses droits. Et d'ailleurs, parmi les excursions les plus intéressantes, les promenades les plus intéressantes de cette fête de la nature, beaucoup se passent dans des sites qui sont d'anciens sites industriels ou des sites de la région des grandes villes, près de Lyon, près de Paris, près de Marseille, et qui sont des sites que la nature a reconquis et où elle a retrouvé tout son fonctionnement. On ne protège pas une nature immobile, elle n'existe pas. On protège une nature qui bouge, on protège une nature dans laquelle des espèces nouvelles colonisent un espace, dans lesquelles d'autres espèces bougent à cause du changement climatique, dans lesquelles se passent des rencontres extraordinaires, et c'est ça qui est passionnant.
Les loutres recolonisent tout doucement les zones humides de Bretagne après avoir frôlé l'extinction. Il y en aurait eu 50 000 en France au début du XXe siècle, seulement 1000 en 1980, chassés pour leur fourrure, puis victimes de la dégradation de leur milieu naturel.
C'est principalement la fin de la chasse et du piégeage qui lui a permis de reconstituer ces populations. L'un des enjeux dans les années à venir, c'est de savoir si elle va pouvoir continuer cette recolonisation ou s'il va falloir faire des efforts pour réhabiliter les milieux pour lui permettre de poursuivre ce mouvement.
La loutre a su s'adapter mais reste très vulnérable aux perturbations humaines, aux pollutions et surtout aux collisions routières. Alors les protecteurs de l'espèce installent sur des endroits stratégiques des passages comme cette banquette en béton. En temps de crue, les loutres y passent au sec plutôt que de traverser la route.
Alors François Le Tourneux, on a sensibilisé les gens d'abord avec de la protection assez intégrale.
On a très bien fait. Hein.
Et bien sûr qu'on a très bien fait donc à cette époque-là. On a nos animaux, on va dire, vedettes, tels l'ours blanc, le panda, le lynx, etc. Et c'est indispensable aussi de parler de cette faune sauvage. Mais il y a quand même toute cette nature ordinaire et puis surtout le maillage qui existe. C'est-à-dire qu'une des clés de l'écologie, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes. Et là aussi, les gens maintenant prennent bien conscience que ce sont des milieux qu'il faut avant tout protéger, en tout cas améliorer.
C'est un exemple que beaucoup d'auditeurs connaissent sans doute, mais en France, il ne disparaît pas d'espèces. Alors parce que les écologistes sont actifs, parce qu'on se donne de la peine, on est arrivé à maintenir la toute petite population résiduelle d'ours des Pyrénées et de faire comme s'ils n'avaient pas presque disparu. On va sauver, espérons-le, le hamster d'Europe en Alsace. En revanche, dans le même temps, pendant qu'il ne disparaît pas d'espèces, pendant même qu'on en réintroduit certaines, qu'on parle du pigargue à queue blanche, qu'on parle d'un certain nombre, que les rapaces ont été une grande réussite, dans le même temps, il y a moitié moins d'oiseaux communs qu'il n'y en avait il y a 50 ans. En 50 ans, la moitié des oiseaux qui vivent dans les milieux agricoles ont disparu. Alors, ils ne sont pas menacés, il y a toujours des alouettes, mais il y en a moitié moins. C'est un peu embêtant.
Ouais.
C'est ça qui se passe, c'est que le tissu vivant de la planète, comme dit Robert Barbeau, ce tissu vivant de la planète, il s'érode, il s'use, et il commence à y avoir des trous.
Oui, il faut imaginer ça comme un grand pull-over.
Voilà, qui est mité.
Oui.
Sauf que les mythes, c'est la biodiversité.
Alors, oui, mais alors, ce qui fait que le pull-over se détricote, c'est quand même l'individu, c'est nos modes de consommation.
Voilà, il faut surveiller.
Et sans une fois de plus faire surtout pas de morale, surtout pas de... Bon, on a quand même des choses qui s'appellent les pesticides, les néonicotinoïdes aussi, ça aide pas forcément complètement dans les grandes cultures à favoriser la biodiversité.
Alors, il faut à la fois prendre des grandes décisions, parce que c'est vrai que le développement des palmiers à huile au Cameroun, qui a failli se produire et qui n'est peut-être pas encore complètement écarté, c'est une très 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 mauvaise affaire pour tout le monde. C'est vrai que l'agriculture intensive, heureusement les agriculteurs français sont en train d'en prendre plus en plus conscience,
oui.
Mais l'agriculture intensive, c'est actuellement la plus grande menace en Europe sur la biodiversité, le plus grand coup de marteau sur la biodiversité, il est causé par l'intensification agricole, mais en même temps, cette résilience dont on parlait tout à l'heure, chaque personne peut y contribuer. Et c'est pour ça que cette année, nous parlons des petites bêtes, cette année on propose tout simplement à tout le monde, où qu'il soit, de se préoccuper de faire un petit coin de nature. Alors, un petit coin, quand on a parlé de petit coin de nature, on nous a dit les petits coins, les petits coins. Bon, on a dit un mini coin de nature.
Voilà.
On a dit un mini coin de nature.
Non, parce que les gens l'esprit mal tourné,
voilà.
C'est pour ça.
Donc, on a dit un mini coin de nature. C'est quoi un mini coin de nature? C'est tout simple. Dans un coin, on fait un tas de cailloux, un petit tas de cailloux. Et les insectes qui aiment les cailloux, les lézards, etc., un certain nombre d'autres petites bêtes peuvent y trouver refuge. On fait un fagot de branchage et certains insectes iront y pondre. On perce un bout de bois avec une mèche de 8 et dans les trous, il y a des abeilles sauvages qui vont nicher. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que les apiculteurs ont utilement et intelligemment dit qu'il fallait sauver l'apiculture parce que ça contribuait à la fertilisation.
Mais la pollinisation sauvage,
mais la pollinisation
encore
sauvage
plus importante.
Est beaucoup plus importante que celle qui est causée par les abeilles cultivées. Et par conséquent, il est tout à fait vital pour un grand nombre d'espèces de tout faire pour qu'il y ait beaucoup de variétés d'insectes. Donc, les petites bêtes, ce n'est pas seulement les insectes. Le troglodyte mignon, l'un des plus petits oiseaux français, il faut l'entendre chanter. Il faut voir ce qui arrive à sortir comme volume sonore de quelque chose qui est beaucoup plus petit qu'un MP3. Hein.
Oui.
Je suis sur un coup, là.
Aïe.
Une forêt. Avec ça, t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. La forêt, c'est là qu'il faut investir.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Fête de la nature, mais on va l'écrire aussi F-A-I-T-E-S, fête de la nature. Allez-y, foncez les petits gars. Frédéric Danhé, donc, est resté avec nous. Qu'est-ce que l'on peut dire de la biodiversité en ville?
Eh bien, la biodiversité en ville, elle est aujourd'hui supérieure en termes d'espèces. Elle est supérieure à la biodiversité qu'on peut mesurer dans le pourtour des villes. Comme si les villes étaient devenues des refuges, de la même façon qu'on s'aperçoit même en Île-de-France que le long de certaines voies du RER, eh bien, on trouve une micro-biodiversité en escargots, par exemple, en insectes, qui est assez extraordinaire, qui est en tout cas très supérieure à celle que l'on trouvait avant dans les endroits qui étaient des endroits de nature et où on a fait dans l'Essonne, par exemple, des grands champs de céréales. Donc la biodiversité va en ville où, en gros, on lui fout la paix. Il y a moins de pesticides, il y a moins de prédateurs, il fait chaud en hiver.
On chasse très peu en ville.
On chasse très peu en ville. Et puis en plus, la biodiversité profite des parcs urbains, profite des petits jardins, profite des fissures dans les murs dans lesquelles poussent plein de petites plantes.
Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les fissures, on ne s'en rend pas forcément compte. Enfin, si on s'intéresse, oui, mais ce sont des trésors en termes de botanique.
Ah, bien sûr. C'est toujours pareil. François en a parlé tout à l'heure, les friches industrielles. Alors moi, j'ai connu ça. J'ai fait des cours de botanique sur les terrils dans le Nord, la végétalisation des terrils. C'est passionnant. Eh bien, laisser un petit tas de terre, un petit tas de cailloux, laisser un mur se dégrader gentiment, laisser un terrain vague comme il y avait avant dans les villes. Moi, j'ai connu ça petit. Je ne suis pourtant pas si vieux. Non. En fait, vous avez une multiplication des niches écologiques et qui attire des petits insectes, qui attire des petits mammifères. Ce qui fait que la biodiversité revient en ville, c'est aussi le fait qu'on la laisse faire, on laisse la nature faire. Donc,
ce qui la multiplie, c'est ça, c'est le laisser-faire.
C'est le laisser-faire, un laisser-faire contrôlé. Il ne s'agirait pas que des plantes invasives s'installent, oui. Il ne s'agirait pas qu'une espèce prenne le pas sur d'autres. Mais en tout cas, c'est le laisser-faire et c'est la multiplication des niches écologiques. C'est la multiplication dans les grands parcs urbains, c'est laisser le gazon monter en graines et c'est multiplier les différentes strates de végétation de façon à ce qu'on multiplie dans les trois dimensions les différentes niches écologiques. Et le bilan est là. C'est-à-dire même en Suisse, qui est un pays, paraît-il, béni des dieux d'un point de vue écologique, ce sont dans les villes où l'on trouve une biodiversité plus importante que dans le pourtour de ces villes. Mais ça ne peut exister que si ces villes sont en quelque sorte des îles. Mais les îles ne se peuplent que si le continent n'est pas très loin. Donc il faut qu'autour, il y ait encore des réservoirs de biodiversité et que la distance entre les deux soit relativement faible. Pour qu'il y ait des réservoirs de biodiversité, il faut qu'il y ait encore des portions de forêt, par exemple. Il faut qu'il y ait encore des zones humides. Et pour que la distance soit faible, eh bien, il faut que les animaux de ces réservoirs puissent, via ce qu'on appelle maintenant des corridors écologiques, arriver en ville. Et les corridors écologiques, c'est le long des canaux, c'est le long des autoroutes, c'est le long des voies de chemin de fer. Et c'est les jardins où on fait des petits sauts de puce, si j'ose dire, et on arrive en ville, où là, on a la paix.
Et faites un trou dans votre jardin aussi, pour laisser passer donc, cette biodiversité.
Faites un trou, ça, et des tas de bois, des tas de cailloux. Mettez de la prairie dans un coin de votre jardin, plutôt que du gazon. Pas de tuya, surtout pas de tuya.
Oui, c'est du béton vert, c'est ça.
C'est du béton vert.
Tout à fait. François Letourneux.
Oui, il y a beaucoup de villes maintenant qui ont abandonné tout simplement le traitement des pieds d'arbres. Paris en fait partie, mais il y a d'autres villes, nombreuses en France, qui l'ont fait. Autour de ces pieds d'arbres, malgré ou peut-être à cause des crottes de chiens, se développe une diversité végétale qu'on n'avait pas imaginée. Il y a un des programmes de sciences citoyennes, de sciences participatives, qui invite tous ceux qui le souhaitent à identifier les plantes sauvages de la rue, comme dit le programme. Et c'est vrai que ça marche. Alors bien sûr, il faut s'y habituer, il faut en prendre la responsabilité, il faut éviter qu'on ne détruise tout ça pour le simple plaisir. Il faut par conséquent comprendre comment ça se passe, il faut par conséquent être intéressé par le sujet. C'est à ça que sert votre émission et c'est à ça que sert la fête de la nature.
Et bon, on va prendre un petit peu d'air, on va continuer donc avec vous tous et vous emmener dans les Hautes-Alpes dans quelques instants. Eh ouais, découvrir quoi ? Des aigles. Si, vous en avez au-dessus de la tête, regardez.
Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers et puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une une fleur, un sourire, un serment pour l'ombre d'un regard, en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont briller Notre-Dame du bon temps.
Et on va partir dans les Hautes-Alpes tout de suite. On va prendre le grand air avec deux personnages, dont Christian Couloumi.
Le ciel, bah, pour voler, il faut le ciel. Ouais. Sans le ciel, ils ne pourraient pas voler. Mais plus que le ciel, il y a des endroits particuliers qu'ils aiment. Et il y a des ascenseurs. Vous ne les voyez pas, vous, Denis. Mais nous, on les voit. Et les aigles, encore bien mieux. Il y a des endroits privilégiés en fonction du vent, d'où vient le vent. Alors, selon que c'est du vent d'est ou du mistral, l'ascenseur en question change de place. Mais c'est des endroits, nous, on a avec mon ami Jean-Michel, avec Milou, on a repéré quelques ascenseurs comme ça et on vient s'y percher, comme je vous l'ai dit, en attendant les aigles. Et là, on a de très grandes chances, dans les minutes qui viennent, d'en voir.
Nous sommes dans le département des Hautes-Alpes et là, on est dans un belvédère qui est face au massif des Écrins, face au parc national et qui s'appelle le Dévoluy. Alors on n'est pas très loin de Gap, non loin du col Bayard, du col du Noyer, et c'est un pays de silence le Dévoluy parce que c'est un pays calcaire. Donc vous n'avez pas d'eau, cette roche ne fabrique pas de grands ruisseaux, l'eau ne cascade pas, elle va s'infiltrer de suite une fois tombée du ciel dans le calcaire, et c'est pour cela que le Dévoluy est une fabrique de silence, mais aussi de lumière. Donc vous imaginez des éboulis, de grandes falaises, des alpages, du silence. Vous ajoutez quelques marmottes, oui, de l'air, de l'espace, du vivant, mais du vivant qui est caché. Donc le lieu est idéal pour l'aigle. Et aussi pour deux hommes qui font corps avec la nature, à savoir Jean-Michel Bertrand, qui est cinéaste, qui a réalisé un très beau film sur les aigles. On vous a mis toutes les coordonnées sur le site de CO2 Mon Amour. Vertige, une rencontre, un aigle, un homme et son rêve. Et puis un habitué de cette émission depuis déjà, allez quoi, 10-20 ans, Christian Couloumi, qui est chef de secteur, comme on dit, au Parc des Écrins, du côté d'Embrun, et donc garde-moniteur également. Et vous aussi, bah vous allez les suivre parce qu'on va prendre l'air, on va prendre les ascendants, France Inter et CO2 Mon Amour, comme ça pour s'élever à tire d'aile.
Oh là-bas, regardez Denis là-bas.
Ouais.
Là, au-dessus du col, juste à gauche.
Ah oui, ça y est, on les voit très bien. Là ils sont, voilà. Ils sont deux, c'est le garçon et la fille, enfin, ils sont mariés ceux-là ou...
Il y a des chances que ce soit le couple, ouais. Et en fait, ils sont ensemble cette année, en cette saison. Parce que, attendez que je regarde. Parce qu'en fait, oui, sur la femelle, il lui manque une plume au bout de la main droite. Et donc, c'est comme ça qu'on peut la reconnaître, c'est elle. Donc, il y a la femelle et le mâle. Et en fait, on les voit ensemble dans cette saison pour une bonne raison, c'est qu'ils ne se sont pas reproduits cette année. Pas eu de reproduction, donc normalement, quand ils se reproduisent, la femelle couve d'abord. Ensuite, elle s'occupe quand même pas mal des poussins, dans les premières semaines de leur vie en tout cas. Le mâle vient les ravitailler et tout ça. Donc, on les voit rarement ensemble au moment de l'élevage des jeunes. Et là, justement, vu qu'ils ne se sont pas reproduits, ben, ils volent ensemble. Donc là, c'est une chance et une malchance. Mais bon, ouais. Ça arrive, hein, des années où ils ne se reproduisent pas.
Alors, donc, c'est lié à quoi, ça?
Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Ce qu'on a observé justement avec Christian en début d'année, là, c'est qu'on a vu un truc fabuleux ici. On avait trois aigles ensemble et on a eu pas des combats, mais vraiment des acrobaties aériennes, des trucs fabuleux avec le bruit des ailes de piquer à tout près de nous. Et en fait, le couple était harcelé par un intrus. Qui essaient d'un petit peu s'immiscer dans le territoire, et ça les perturbe terriblement, quoi. D'accord. Parce que les aigles sont les grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et ils s'autorégulent. Ils sont très territoriaux comme tous les grands prédateurs. Alors quand il y en a peu, ils sont peinards, tranquilles sur leur territoire et puis ils s'occupent de leurs petits et tout. Et quand il commence à y avoir du monde autour, sur les autres territoires, là, ils passent beaucoup de temps à défendre le territoire.
C'est en gros un fouetteur de merde. Quoi.
Enfin, voilà, et du coup, ils se reproduisent plus de petits, donc moins d'aigles, etc. Et tout se rééquilibre. Okay. On entend toujours dire qu'il faut réguler les prédateurs, etc. Oui. On s'est quand même rendu compte, ça, là, on a plein d'incertitudes et on se pose toujours des tas de questions quand on observe les animaux. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, quand même, enfin, ce qu'on constate, c'est que ils nous ont pas attendus pour se réguler, quoi. Ça fait quelques millions d'années que ça dure.
Il n'y a pas un battement d'aile, là. Hein.
C'est incroyable. Non. Là, à cette heure-ci, vous voyez, on a bien choisi de vous amener avec Jean-Michel sur le bon site au bon moment. Et il n'y a pas de battement d'aile, non, il pépère. Il ne vole pas très vite, en fait. Hein. Et il tourne pour rester dans la colonne d'air qui monte, quoi. Et là, ils vont prendre de l'altitude. On va les regarder encore un petit peu, vous verrez. À un moment donné, ils vont se dire, ils vont regarder le baromètre ou l'altimètre. Ils vont dire, bon, on est assez haut. Et hop, direction les écrins.
Et puis les autres rencontres, c'est sur les autres oiseaux. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le même territoire, mais que nous voyons. Et là, ce sont des vautours.
Ce sont des vautours fauves qui ont fait leur apparition il y a quelques années dans les Alpes, à partir d'abord des zones de réintroduction dans les préalpes, le Vercors, le Verdon, les Baronnies. Ils utilisent parfois les mêmes chemins, les mêmes ascenseurs dont on a parlé que les aigles, parce qu'ils sont comme les aigles, ils ont besoin de vent ascendant pour monter, pour aller gagner les grandes montagnes des écrins et y trouver leur pitance, quelques moutons qui sera mort.
Oui, parce qu'ils sont évidemment directement inféodés à l'homme, et à l'homme ça veut dire la brebis, le mouton qui est malade ou bien qui est mort.
Qui est mort. Alors là, il y a un grand mystère, c'est pas vraiment un secret, mais c'est un mystère. Comment trouvent-ils leur proie aussi vite? Parce qu'il y a quelques moutons qui crèvent ici ou là, et dans les jours, même dans les heures parfois qui suivent, comme nous le disait un témoin tout à l'heure, un berger, les vautours sont là tout de suite. Alors ils ont un langage qu'on ignore sans doute, mais qui, personnellement, moi je le rapproche un peu de celui des abeilles, vous savez, les fameuses danses des abeilles qui indiquent exactement l'endroit. Et bien là, les vautours, c'est un petit peu pareil. Alors, ils disent pas faut aller là-bas, ils disent plutôt faut venir ici, parce qu'ils tournent ensemble, et je pense que ça crée une espèce d'agrégation, là, comme il y a un attroupement dans la rue, vous savez, tout le monde se précipite là-bas. C'est un peu la même chose qui se passe pour les vautours, j'ai l'impression.
Christian, là vous étiez à la jumelle, en train de regarder peut-être le nid de nos aigles. Qu'est-ce qu'il leur faut? Ils sont en pleine falaise?
Oui, le nid vide cette année, comme le disait Jean-Michel à l'instant, qui est dans la falaise en face. Qu'est-ce qu'il leur faut? Ben, c'est tranquille d'ailleurs, d'abord, hein, en général. Donc la falaise, ça veut dire qu'il n'y a à peu près que eux qui sont capables d'y aller. Ouais. Les prédateurs comme un renard ou choses comme ça, qui pourraient causer des dommages aux petits, ne peuvent pas y accéder. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, l'aigle, s'il a survécu dans les Alpes, contrairement à d'autres comme le gypaète, c'est parce qu'il est très farouche, donc il a très peur de nous. Ce n'est pas le cas du gypaète barbu.
Vous savez, il s'est fait tirer, le gypaète.
Oui, bah, il était facile, et encore aujourd'hui, il vient vous voir, il est plutôt curieux, le gypaète barbu. Et l'aigle, ce caractère sauvage dans le sens farouche, eh bien, ça lui a sauvé la vie. Et pour sa reproduction, il cherche les coins un petit peu paumés, ou alors où on ne va pas le chercher. On est surpris parfois de trouver des nids d'aigle dans des endroits totalement inattendus.
Christian, ils sont fidèles, nos aigles ?
Probablement pas comme on voudrait qu'il soit dans les beaux livres d'enfants, dans les contes. Il est très probable que monsieur ou madame fasse des incartades de manière assez régulière. On connaît des trios, par exemple. Oui. J'allais dire un couple qui est composé de trois, c'est plus un couple.
Non, mais c'est ça.
Mais voilà, une famille d'aigles qui est composée de trois individus. L'aigle royal, c'est très difficile à distinguer un individu d'un autre. Ils se ressemblent beaucoup. Mm-hmm. On n'est pas capable de dire, sauf pour la femelle dont parlait Jean-Michel, à qui il manque une plume, ça, on sait qu'elle est d'ici, mais il y a du renouvellement, du turnover, comme on dit aujourd'hui, et on l'a observé chez d'autres espèces de manière flagrante, quoi. Oui. Et une preuve de ça, c'est par exemple, si on retrouve un oiseau mort sur un territoire, très rapidement, on revoit deux oiseaux. Donc il y a toujours des gens qui attendent derrière la porte et qui regardent par le trou de la serrure si tout va bien, et qui parfois la poussent, la porte, et on revient à ce qu'on disait en début de cet entretien, ce que Jean-Michel expliquait, de l'agressivité entre eux.
Alors cet oiseau, il habille la montagne, qu'est-ce qui vous épate?
Je rejoins le rêve d'Icare de Jean-Michel, c'est-à-dire que je vole un peu avec eux. Quand je les vois, je les suis à la jumelle. Je suis un peu comme Nils Holgersson perché là.
Et je vais avec... C'est pas une oie, mais c'est un aigle.
Voilà, c'est pas une oie, c'est un aigle. Bon. Mais c'est vrai que j'ai été amené au cours de ma carrière à faire partager ces moments-là à des gens qui ne connaissaient pas l'aigle. Et ça force l'admiration. Quoi. Franchement, les gens qui n'ont jamais vu cet oiseau, qui ont la chance d'observer un plongeon, une ressource, enfin, une acrobatie de l'aigle royal, ils restent bouche ouverte.
Bon, là, il ne fait pas d'acrobatie, il ne fait pas de looping, mais là, il est très bien, parce que, enfin, ils sont très bien. Donc là, on a un couple d'aigles, et puis on a quand même 6 ou 7 vautours. Hein. Ils sont plus nombreux.
Ouais, on discute, on devrait les regarder d'ailleurs.
On regarde en même temps.
Mais regardez, là, le mâle pique et il remonte. Ça s'appelle le vol en feston, ça. Ça, c'est quand il défend son territoire, c'est-à-dire que peut-être qu'il a vu...
On va regarder ailleurs si des fois il n'y en a pas.
On va regarder ailleurs, parce que quand il fait ça, en fait, c'est qu'il y en a peut-être un autre, qu'il en a vu un autre et qu'il dit « attention, je suis chez moi ». Le vol en festin, il pique, il remonte, c'est vachement beau. Regarde comme c'est beau. Bon, sinon... C'est-à-dire que nous, on n'est quand même pas très habiles pour passer les crêtes. En plus, en montagne, on y est toujours confronté à cette verticalité, au problème de ne pas pouvoir se déplacer comme on veut, où on veut. Et eux, quelque part, ils nous font aussi des pieds de nez. Ils passent derrière une crête, ils disparaissent. Et je crois que la quête de l'homme, depuis longtemps, a été le rêve de voler, évidemment. Et pour ça, on a mis le paquet. On a tellement mis le paquet que toute la technologie est là pour ça. Et en fait, ces animaux que je qualifie de magiques, parce que c'est magique, ils ne nous ont pas attendus pour voler eux-mêmes. Ils sont complètement autonomes. Et finalement, on s'identifie à ça. Il y a une forme de liberté. Alors, ça peut paraître un raccourci, mais là, on est vraiment dans la vraie liberté. C'est-à-dire que pas de kérosène, des animaux autonomes qui sont adaptés à un territoire, à des rigueurs terribles, à du vent. Vous avez des vents parfois à plus de 100 à l'heure. L'aigle vole tranquille là-dedans, quoi. Une adaptation terrible. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on voit les passionnés de parapente, de deltaplane, qui eux disent et admirent les aigles aussi. Mais on voit qu'à côté, ils sont. C'est comme si on voyait quelqu'un ramper par terre par rapport à un guépard, quoi. Et ils l'admettent, bien sûr, la finesse de vol. Et pour moi, la magie, elle est là. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange de réagir comme ça, mais moi je trouve que c'est complètement un monde parallèle au nôtre. Et je pense qu'on doit vraiment, si en l'observant, on grandit.
Merci à Jean-Michel Bertrand et Christian Couloumi, donc dans ce département des Hautes-Alpes, de fêter la nature aussi à leur manière. Nature Paris, je tiens à le dire aussi, a organisé près de 700 manifestations en Ile-de-France, donc vraiment profitez-en. Alors on n'a pas tellement envie de revenir sur Terre, et on va quand même revenir avec vous, François Letourneau. On va quand même rester en montagne, parce que vous êtes aussi un homme de la Haute-Maurienne, en Savoie, et en altitude, qu'est-ce que l'on va rencontrer, j'allais dire, comme petite bête, François Letourneau?
Eh bien, d'abord, une des particularités de la haute montagne, c'est qu'elle est constituée d'une mosaïque de tout petits milieux très précis. Il y a ceux qui sont au sud et un peu chauffés par le soleil. Il y a ceux qui sont, au contraire, plus frais. Il y a les cavernes avec des plantes et des animaux spéciaux. Et en montagne, d'abord, c'est le bruit permanent des criquets et des sauterelles qui marque tout le pâturage d'altitude. Il y a tous les passereaux. Et puis, il y a les bartavelles, les perdrix des neiges, qui sont un peu plus grosses, mais après tout, elles ont droit. Et puis, il faut faire attention également à tout le mécanisme de la nature. Savez-vous qu'en montagne, pendant longtemps, on a eu des problèmes parce qu'on vermifugeait les moutons pour être sûr que la viande serait exempte de maladies. Et on le faisait avec des produits qui étaient tellement nocifs que les bousiers chargés de détruire les bouses de hache et les crottes de moutons, ces bousiers étaient tués. Les bouses ne se décomposaient plus. Il n'y avait plus d'herbe sur les pâturages.
Ça a étouffé, en fait, l'herbe.
Alors maintenant, on a amélioré les choses. Mais cette question du fonctionnement de la nature avec les décomposeurs, les recycleurs, elle est fondamentale aussi. Et c'est amusant de voir comment, justement, travaillent ces petites bêtes sur le terrain.
Alors pourquoi, en fait, on s'est intéressé, je dirais, aussi tard au mécanisme du sol? Parce que c'est quand même la clé, au départ.
Je crois qu'on a longtemps considéré que la nature était immobile. Je crois qu'on a longtemps considéré qu'il y avait des espèces, qu'elles étaient là, qu'il y avait une création. Et dans cette création, il y avait des choses qui ne bougeaient pas. Mmh. Il a fallu du temps pour qu'au XVIIIe siècle, on découvre qu'il y avait des fossiles et que par conséquent, il y avait des espèces qui avaient disparu. Puis ensuite, il a fallu du temps pour qu'on se convainque que quand on protégeait un parc national, il fallait pas l'empêcher de bouger. Il allait bouger quand même. Et qu'il allait, il allait se produire des choses. Et s'il se produit des choses, c'est qu'il y a des mécanismes. C'est vrai que les agriculteurs ont été très longtemps à comprendre que le choix qu'ils faisaient, qui consistait à tout nettoyer pour faire propre et avoir ce qu'on veut à la place de ce qu'il y avait avant, c'était pas une très bonne solution. Les vers de terre font un travail qui est au moins aussi efficace que un certain nombre de travaux du sol. Si on a détruit tous les vers de terre, il faut ensuite compenser le travail qu'ils faisaient et le faire mécaniquement, et puis bouffer du gasoil, et puis des agrocarburants produits avec des pesticides à la place des autres cultures. Et ça n'est pas un bon équilibre. Le bon équilibre, c'est de s'appuyer sur les mécanismes naturels de la nature. L'agriculture moderne, l'agriculture biologique, sont des agricultures qui travaillent avec ce qu'on appelait autrefois et ce qu'on appelle à nouveau les auxiliaires des cultures. Tous ces mécanismes qui font que ça se régule. Alors que vous avez un jardin, vous savez très bien que si vous avez du ver du poireau et que vous ne traitez pas, bah vous aurez du ver du poireau. Mais au bout de 2 ans, vous n'aurez plus de ver du poireau parce que vous aurez souffert 2 ans. Mais au bout de 2 ans, les prédateurs, les régulateurs du ver du poireau seront eux aussi installés dans votre jardin et vous n'aurez plus de problème. Nous sommes tous passés par là, tous les gens qui gratouillent un peu. Et c'est vraiment intéressant parce que la solution qui consiste à enlever tout ce qu'il y a comme richesse dans le sol et à remettre de l'engrais chimique, elle a fait la preuve de sa nocivité.
Je me retourne vers vous, Frédéric Danhé. On va revenir en ville. Et parlons quand même de la place de l'eau. Et alors aussi des zones humides. Alors, pas des zones humides qui sont des grands lacs, la Brenne, la Dombe, etc. Ou bien la Camargue. Mais les zones humides en ville, qu'est-ce que c'est?
C'est tout ce qui est... eau stagnante ou eau qui bouge un peu. Alors c'est les canaux, alors ça peut être les fleuves, c'est les petits bassins. En fait, c'est tous les endroits qui, alors vu du ciel par les oiseaux, guident un peu ces mêmes oiseaux. C'est tous les endroits où la faune peut venir s'abreuver. C'est aussi la percolation de l'eau, c'est la condensation de l'eau dans les tunnels du RER par exemple. L'humidité, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que, alors c'est très bête ce que je vais vous dire, mais c'est tellement évident qu'il faut le répéter, c'est que la végétation a besoin d'eau.
Oui.
Et une fois qu'elle a de l'eau, elle peut, ce qu'on dit, évapotranspirer. Elle peut transpirer cette eau et l'eau qui est dans le sol peut aussi s'évaporer. On appelle ça l'évapotranspiration. Et c'est fondamental parce que l'évapotranspiration, c'est un petit manteau qui vient atténuer, si j'ose dire un manteau, qui vient atténuer ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Une ville fabrique de la chaleur. Elle fabrique de la chaleur parce qu'elle a du macadam qui accumule de la chaleur, qui restitue cette chaleur la nuit. Elle fabrique de la chaleur avec ses moteurs.
C'est aussi pour ça que les animaux aiment se réfugier ville et en particulier en hiver.
Voilà. Mais une ville qui a une biodiversité végétale importante, qui a un couvert végétal important, c'est une ville dont l'évapotranspiration est forte. Et cette évapotranspiration, puisqu'elle se fait, ça veut dire qu'on a consommé de la chaleur. Les végétaux ont consommé de la chaleur, si j'ose dire, pour transformer l'eau qui est dans le sol en vapeur. Voilà, je résume à l'extrême. Et donc, les villes où l'évapotranspiration est forte sont des villes où il fait moins chaud, où cet effet de chaleur urbain est atténué. Et les modélisations qui ont été faites, on en avait parlé au mois de septembre par le CSTB et l'ADEME, ont montré que dans le cadre du réchauffement climatique, une très bonne couverture végétale sur Paris permettrait de réduire, dans certains arrondissements, les températures d'été de 3 degrés.
Donc climatiseur naturel.
Climatiseur naturel. Mais
il faut de l'eau.
Mais il faut de l'eau. Et oui, le problème, c'est que le réchauffement climatique, le principal problème, c'est la disponibilité de l'eau au moment où les plantes en auront besoin, c'est-à-dire en été. Donc le serpent se mord un peu la queue. Finalement, ça va être ça. La climatisation naturelle des villes va dépendre d'une quantité d'eau qui ne peut aller qu'en diminuant, surtout si on la gère mal. Et donc, est-ce qu'il faudra un jour arroser en plein été, la nuit, les parcs urbains? Est-ce qu'il faudra demander aux gens d'arroser leur jardin alors qu'aujourd'hui, on nous demande le contraire pour permettre cette évapotranspiration? C'est une question qui se pose. En tout cas, la biodiversité en ville, c'est de l'ombre et c'est du rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est juste le nom banal de cette évapotranspiration.
Un locavore, c'est quelqu'un qui décide de se nourrir uniquement d'ingrédients produit à moins de 200 km à la ronde de chez lui.
Il faut changer les habitudes alimentaires.
Je pense aussi, oui. C'est pas mal.
Il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir manger, oui.
Mais il y a quand même un intérêt énorme dans tout ça. C'est moins de conservateurs, c'est frais et c'est moins de kilomètres dépensés. Et donc c'est intéressant aussi pour la planète.
François Tourneux, qu'est-ce qui vous met en confiance quand même aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation qui commence à être faite? Pas pour tout le monde, mais là je voyais par exemple un sondage qui vient de tomber, qui avait été commandé par Greenpeace à l'Institut CSA, bon, qui dit que l'écologie est en recul dans nos préoccupations. En 2009, 47% des Français jugeaient ces questions prioritaires, ils sont plus que 30% aujourd'hui, mais quand même 61% estiment qu'il est important de sauvegarder la planète. Bon, là c'est vrai qu'on est un peu dans le dur avec la crise, mais malgré tout, il y a quand même toute une jeune génération qui prend les choses en main différemment peut-être, même si nos gamins sont peut-être nés davantage consommateurs au départ, on voit aussi les gens de toute génération qui se posent quand même des questions. Qu'est-ce qui vous rend confiant ?
D'abord, une première chose, c'est que être pessimiste n'a aucun intérêt. Oui. Bon, donc on est un peu obligé d'être optimiste. On est obligé de se dire, on peut faire des choses. Et c'est vrai qu'on peut faire des choses. Alors, ce qui me rend optimiste, très, 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 très clairement, c'est que ce que nous proposons comme solution pour lutter contre la perte de biodiversité, curieusement, ce n'est pas des contraintes, c'est des plaisirs. Mes camarades qui travaillent sur le changement climatique, ils ont un inconvénient. Hein. C'est qu'eux, ils ne proposent que des contraintes. Il faut rouler moins, se chauffer moins, faire attention à ceci, faire attention à cela. Nous, on dit manger mieux. Nous, on dit, regardez comme c'est beau. Nous, on dit, ayez un jardin, soyez locavore. Mmh. Nous, on dit, la biodiversité, elle est meilleure lorsque on gère son jardin avec amour. Bon, on dit des choses qui sont plutôt positives. Oui. On propose du bonheur. Alors, on en est très content. Ça peut rendre optimiste. Alors, évidemment, en même temps, il faut être vigilant. Vous savez que si la durée de vie continue d'augmenter, au moins en Europe, si elle n'augmente plus aux États-Unis, la durée de vie en bonne santé a commencé à diminuer depuis plusieurs années à cause d'un certain nombre de produits chimiques utilisés dans la vie quotidienne. Donc tout n'est pas gagné. Mais justement, disons aux gens, portez-vous mieux. Ne leur disons pas souffrez, disons-leur portez-vous mieux. Et ce que nous espérons, c'est que tous les gens qui, parce qu'on les y a un petit peu poussés, feront ou ont fait l'effort d'aller dans la nature en se disant, c'est pas ce qu'on va voir, et qui auront été enchantés, ceux-là y retourneront, ceux-là auront envie, comme vous le disiez, de faire de la nature. C'est une belle, un beau slogan pour l'année prochaine, fête de la nature. Et voilà. Et je pense qu'il faut regarder ça, comme l'a fait Fred, en étant très sensible à ce qui peut faciliter la mobilité et la richesse de la vie de la nature. Par exemple, il a parlé de l'évapotranspiration. On a pendant au moins le 19e siècle rendu tous les bords des rivières dans les villes minéraux. Et il n'y a pas d'évapotranspiration sur du minéral. Si vous faites une limite entre l'eau et la terre, qui est une limite molle, qui est une limite dans laquelle il y a des herbes, dans laquelle il y a des algues, dans laquelle il y a des circulations. Là, ça s'évapotranspirera vraiment. Et là, on aura de la fraîcheur. Et donc, un certain nombre de villes, là aussi, sont en train de le comprendre. Et nous avons envie que la fête de la nature, ça soit la fête de ces petites initiatives-là, dont les gens ne peuvent pas facilement se vanter. On ne se vante pas d'avoir des mauvaises herbes. Ben pourtant, qu'un jour, les villes invitent leurs citoyens à venir voir et leur disent « Oui, on a délibérément choisi d'avoir des mauvaises herbes parce qu'on aime bien les mauvaises herbes et qu'il faut leur laisser une petite place quelque part parce qu'elles sont pleines de papillons, pleines d'oiseaux et pleines de bonheur. »
Frédéric Danoé sur ce thème.
Vous savez, la biodiversité, l'érosion de la biodiversité et le bonheur que l'on tire de ce respect, on le voit partout, même en nous. On se rend compte qu'il y a des maladies qui se développent parce que notre flore intestinale a été réduite par un hygiène devenu hygiénisme. Et la biodiversité, on ne peut pas vivre sans une biodiversité, sans un écosystème bactérien très divers dans notre intestin. La maladie de Crohn, par exemple, je ne vous expliquerai pas ce que c'est. La maladie de Crohn, c'est une maladie très invalidante qui se développe dans tous les pays occidentaux et c'est très certainement dû à une rupture des équilibres entre les bactéries, de la biodiversité bactérienne en notre sein, à cause d'un hygiène devenu un hygiéniste. C'est-à-dire, on mange, on n'est plus confronté, on ne se laisse plus confronter. Notre système immunitaire n'est plus autant confronté qu'avant à l'extérieur, aux germes bactériens, aux attaques. Pourquoi ? Parce qu'on prétend vivre dans un milieu sous contrôle hygiénisé. Eh bien, les allergologues, notamment, les médecins, se rendent compte qu'on a fait beaucoup de bêtises et que ce qu'on voit à une échelle géante macroscopique, ce que vient de dire François, et on s'en rend compte aussi à notre échelle à nous, à l'échelle interne. Voilà, la biodiversité, c'est la vie.
Donc soignez vos bactéries dans vos intestins, ne l'oubliez pas. Moi je peux vous envoyer un ouvrage avec Frédéric Danoé pour les 9-13 ans. Alors ça c'est important parce que ça permet vraiment de découvrir la biodiversité. Ça s'appelle « La biodiversité, c'est la vie ». C'est aux éditions Auebec, vraiment pour les 9-13 ans, avec des entrées par différents milieux. Et puis www.fetedelanature.com. Qu'est-ce que l'on se souhaite, François Le Tourneux ?
On se souhaite une fête de la nature pluvieuse, une fête de la nature heureuse.
Et ben voilà. Rien que ça, absolument. Merci à Aude-Émilie Judaïc, à Albert Houck, à Christophe Imbert qui a réalisé cette émission, à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Donc allez-y, sur le site de CO2, vous pouvez converser les uns avec les autres, poser vos commentaires, ne vous gênez pas. Tenez, on a maintenant un répondeur qui fonctionne. Si 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35. Donc vous pouvez déposer des messages, aussi des manifestations, etc. C'est quoi ça ? C'est un cochon pour la fête de la nature. Bravo Christophe Imbert, bravo. Je vais vous faire la tourterelle, moi, tiens.
Voilà, je ne sais pas s'ils pourront se reproduire tous les deux. Enfin, c'est peut-être même pas complètement souhaitable. Il n'y aura pas de l'atelier Mon Petit Loup, mais vous avez le site hein, aussi de l'atelier Mon Petit Loup. Vous pouvez récupérer tout cela sans aucune difficulté. Vivre avec les bêtes, ce sera avec Alain Bougrain-Dubourg demain à 15h. Je vous souhaite un excellent week-end d'automne et on se retrouve la semaine prochaine. Bon, oui, à 14h. Et j'espère que vous serez en pleine forme.